Jacques, tu es bénévole militant au sein de l'association Fraternité Rom, association de solidarité avec les Roms du bassin minier. Est-ce que pour commencer, tu pourrais rappeler l'action auprès de ces personnes que mènent les bénévoles de cette association?
En temps habituel, le collectif, il intervient auprès des familles dont il a connaissance pour leur apporter à la fois un soutien en termes d'aide administrative, parce que beaucoup de familles ne connaissent pas la langue française, ne connaissent pas les démarches qui sont nécessaires pour avoir accès à leurs droits. Et donc, il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Ensuite, dans la mesure du possible, leur apporter aussi une aide pour tout ce qui est vestimentaire, parfois alimentaire, en fonction de ce qu'on peut nous donner, et également pour des démarches vers des organismes qui pourraient aussi les aider, les associations qui sont agréées, connues.
Alors avec la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, on s'imagine que la situation des personnes précaires, isolées, telles que les Roms, en devient beaucoup plus compliquée.
Eh bien oui, c'est-à-dire que la grosse difficulté qui est apparue très rapidement et déjà depuis plusieurs jours, même avant le confinement complet, c'est qu'il y avait beaucoup moins de personnes, à l'extérieur, et donc beaucoup moins de possibilités pour pouvoir avoir accès à tout ce qui est, puisque c'est à ce qui est récupération de ferraille, récupération de palettes, et aussi mendicité, puisque en fin de compte, ce sont les trois moyens dont disposent ces familles pour avoir un petit peu de revenu qui leur permet de vivre au jour le jour. Les familles dont nous occupons, beaucoup ont leurs demandes d'asile qui ont été rejetées, leurs recours ont été rejetés parce que ça fait déjà maintenant 3-4 ans qu'ils sont sur le territoire et donc les procédures sont arrivées au bout. Donc ces personnes se trouvent en situation irrégulière, il faut le dire, et elles n'ont plus accès à ce qui était l'allocation temporaire d'attente, depuis déjà parfois un an, deux ans, ou pour certaines un peu plus récemment. Donc leur revenu est un revenu donc de mendicité ou de collecte de ferraille et de palettes essentiellement. Ce qui n'est plus possible actuellement avec l'interdiction de sortie. Et de toute façon, même s'ils avaient le droit de sortir, ils ne trouveraient plus personne à solliciter pour obtenir justement ce qu'ils recherchent.
J'imagine que l'autre moyen d'obtenir des ressources, cette fois des ressources peut-être plus vitales, c'est l'aide alimentaire. Est-ce qu'elle continue là actuellement? Est-ce qu'ils ont des moyens d'obtenir des vivres, quels qu'ils soient?
Alors, l'aide alimentaire, pour ceux qui y avaient accès, parce que elle n'était pas systématique et tout le monde n'y avait pas accès, tout le monde n'a pas accès au restaurant du cœur, tout le monde n'a pas accès à l'aide alimentaire qui peut être donnée par le Secours populaire, pour différentes raisons, pour des raisons d'inscription à temps, de possibilité de ces associations de répondre aux besoins de la population locale avant d'ouvrir aux populations roms. Et là, ça s'est forcément encore réduit, puisque un certain nombre de bureaux qui distribuaient ont décidé aussi soit de fermer, soit de réduire énormément, soit sont en pénurie d'alimentation parce que ils ne sont plus non plus fournis. J'ai eu un contact hier avec la banque alimentaire qui fonctionne en effectif réduit et qui dit être en difficulté aussi pour pouvoir répondre aux demandes.
Les personnes roms sont, comme tu l'as dit, des personnes réfugiées de pays étrangers, donc qui parlent peut-être pas nécessairement la langue française. Donc, est-ce qu'ils ont accès à l'information? Est-ce qu'ils comprennent bien la situation, ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils vivent ça?
Beaucoup ont quand même des contacts entre eux, voire parfois avec un voisinage. Et Ils arrivent à parfois à avoir la télévision de leur pays ou d'un pays proche comme l'Allemagne. Les populations d'origine serbe connaissent assez bien l'Allemagne, l'allemand pour être passés par l'Allemagne. Et donc parfois, s'ils ont accès à une télévision allemande, bon, ils ont l'information hein, qui circule. D'autres l'ont de l'Italie, parce que pour d'autres, certaines familles sont passées par l'Italie, ils reçoivent aussi cette information, et s'ils connaissent un peu la langue italienne, ils s'en sortent. Bon, ils ont une certaine difficulté à se représenter la gravité. Ce sont des populations qui sont quand même habituées à vivre dans la précarité, qui au départ bon, ne s'inquiètent pas forcément d'avoir des bobos, je vais dire, ou des petites maladies, parce qu'ils sont bien obligés de faire avec, ils n'ont pas forcément accès aux soins comme nous on pourrait l'avoir. Mais bon, progressivement, là, ils ont bien pris conscience de la situation, et de toute façon, ils ne sont plus en mesure justement de sortir des endroits où ils sont, squat ou camp, puisqu'ils sont confrontés à rencontrer la police qui leur interdit de bouger.
Un dernier point qui concerne des aspects assez essentiels, c'est la couverture médicale et l'accès aux soins, parce que c'est aussi une partie de l'action des bénévoles que de permettre cet accès. Comment ça se passe dans ces conditions, d'autant qu'on sait que les personnes précaires sont souvent plus touchées par des problèmes de santé.
Avant de répondre à ta question, je voudrais quand même dire, par rapport justement aux déplacements, là, je veux dire par mon intermédiaire notamment, nous avons fait en sorte, et je continue à le faire personnellement, de leur préparer des attestations de sortie dérogatoire et aller leur porter, de manière à ce qu'ils puissent eux aussi pouvoir bouger pour aller éventuellement se rendre à un cabinet médical ou à une pharmacie, s'ils ont la possibilité d'avoir accès à une pharmacie, et également pour avoir ensuite accès aux magasins d'alimentation qui sont encore ouverts, parce que sinon ils n'avaient pas la possibilité de bouger, et personne d'autre que notre association n'avait pensé à leur fournir cela. Moi, j'ai reçu beaucoup de demandes et j'ai commencé à en distribuer aux diverses familles que je rencontre. En ce qui concerne les soins, on est dans une situation particulièrement difficile depuis quelque temps, en tout cas en ce qui concerne le Pas-de-Calais, pour les familles qui bénéficiaient de l'aide médicale d'État, puisque maintenant les dossiers sont traités par le centre régional de Bobigny, et il n'est plus traité par Arras, la CPAM d'Arras, avec qui nous avions établi des contacts de manière à se comprendre et à expliquer les situations quand les dossiers n'étaient pas forcément bien faits. Et toujours est-il que maintenant, il n'y a plus possibilité d'avoir contact donc avec ce centre de Bobigny, et énormément de demandes reviennent en disant qu'il y a des pièces manquantes, pièces qu'éventuellement les familles ne peuvent pas fournir parce qu'ils n'en disposent pas. Bobigny apparemment ne se contente pas d'une attestation sur l'honneur, ce qui était possible avant par la CPAM d'Arras. Et donc ça, c'est une difficulté, parce qu'il y a des personnes qui actuellement n'ont plus de droits, et y compris pour les enfants. Et mis à part le fait de rencontrer, je veux dire, un médecin sympathique, ou de se rendre aux urgences, mais c'est, en ce moment, c'est forcément un gros problème, eh bien, il y a des familles qui ne peuvent plus, qui sont plus en mesure de se faire soigner ou d'avoir accès aux médicaments. Moi, ayant travaillé un moment avec Médecins du Monde et ayant travaillé avec Pharmacie Humanitaire Internationale, je peux faire appel à Pharmacie Humanitaire Internationale, qui accepte de fournir les médicaments aux familles qui disposent d'une ordonnance. Ce qui fait que pour quelques familles qui peuvent encore avoir accès à un médecin qui accepte par exemple de soigner un bébé, même s'il n'y a pas de droit, et si même si la personne de médecin ne sera pas payée, Là, on peut encore répondre, je vais dire, aux besoins premiers.
On imagine également que cette période de confinement ne facilite pas le travail des bénévoles. Comment ça se passe? Est-ce que vous arrivez à toujours remplir les missions qui étaient celles de l'association avant la crise sanitaire?
Forcément, là, on est, ça fait, bon, je veux dire, on est en période 3 jours, là, 3 jours après. Donc, je ne sais pas trop ce que les collègues font. J'ai vu qu'on avait reporté à plus tard un certain nombre de réunions qui devaient avoir lieu ou de contacts avec d'autres associations qui devaient avoir lieu. Moi, je me fais une attestation dérogatoire de sortie chaque fois que je dois le faire, en précisant pour quelle raison, de manière à aller porter soit de l'alimentation. L'association avait mis en place une action qui s'appelait Bébé au sec et ventre plein, qui nous a permis de collecter de l'argent avec lequel acheter des couches pour et du lait pour bébé. Et donc, je continue à faire les achats possibles tant que on a suffisamment d'argent et à le porter aux familles qui en ont besoin. Après, je sais que certains collègues m'ont mis des courriels pour me dire que ils allaient tenter d'avoir un peu de nourriture et qu'ils voulaient bien me le mettre à disposition pour que j'aille le porter. On va voir comment on va pouvoir organiser à ce niveau-là, mais il est certain que la situation actuelle rend beaucoup plus difficile l'aide auprès de ces familles.
Est-ce qu'il y a une réaction des élus locaux face à cette situation? On rappelle que la crise sanitaire touche d'autant plus et rend beaucoup plus compliquée la vie des personnes précaires telles que les Roms.
Oui, alors j'ai commencé à titre personnel à interpeller certaines mairies et les CCAS de ces communes. Pour l'instant, les réponses que j'ai eues ont été des réponses, je veux dire, négatives en termes d'aide. Les mairies n'ont pas la possibilité, m'ont renvoyé vers les services de la préfecture. En ce qui concerne les maisons département solidarité, c'est pareil, ils fonctionnent à effectif réduit, en service réduit, et donc ils n'ont pas la possibilité d'intervenir auprès des familles. On peut être, sauf cas très important, mais pour les demandes qui sont les miennes, du lait, les soins quotidiens, de l'alimentation, ils n'ont pas la possibilité. Le 115, c'est pareil, m'a répondu, je veux dire, que leurs moyens leur permettaient de répondre difficilement aux populations qu'ils avaient déjà en charge pour des hébergements en hôtel ou en foyer, et que malheureusement, ils ne pouvaient pas envisager d'apporter une aide à ce niveau-là. J'ai donc contacté la banque alimentaire où le responsable du centre de Carvin m'a dit que il était d'accord pour me fournir ce qu'il leur était possible de fournir pour pouvoir aller le porter aux familles qui en auraient besoin. Donc là, ça c'était hier après-midi que j'ai eu ce contact. Je vais faire le point avec les familles en fonction des besoins qui sont les leurs. Et puis, je verrai ce qui est possible de faire auprès de la Banque alimentaire, donc le centre de Carvin.
Est-ce qu'on peut venir en aide? Est-ce qu'il y a encore des moyens de manifester une solidarité actuellement?
Oui,
C'est compliqué.
les personnes qui ont la possibilité de éventuellement d'aller porter de la nourriture à tel ou tel endroit en prenant les précautions qui sont les précautions nécessaires et préconisées par le gouvernement, évidemment que ça peut être une aide parce que les familles, comme je disais au départ, ont un gros souci avec les revenus et qui leur permettent d'acheter l'alimentation et les produits de première nécessité. Maintenant, moi, je ne peux pas dire aux personnes apportez-moi tout et envoyez-moi tout. Je ne serai pas en mesure d'aller distribuer aux différentes familles que je connais ou que d'autres que moi connaissent. Donc, par contre, je peux fournir et on peut fournir des adresses des familles. Et là, bon, ceux qui voudraient se déplacer jusque chez eux pour déposer un colis, peut-être que ce serait une bonne chose. Thank you.